Le silence, silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, là, il y a du bruit. Là.
Récréation sonore. Jérôme Massella au micro sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, un documentaire de Delphine Salquin. Donner, c'est donner.
Oh là là,
c'est quoi la suite de donner, c'est donner?
C'est pas voler.
Ben justement, je vais vous raconter, mais je crois qu'il vous, il en manque pas mal là. Donc je les attends un peu. Qu'est-ce que vous pensez?
Je pense que ça sera là, mais tiens, ils ont pas vraiment les cartes.
Tenez, parce que t'as reçu un HD, mais qu'est-ce que t'as pas
mis? Voilà. Alors bonjour à vous. Donc on va faire quelques heures d'atelier ensemble sur le thème du don. Donner, c'est donner. C'est comme ça que j'ai appelé l'atelier, parce que j'avais moi aussi à mon âge en fait envie de me questionner sur comment je donne aux autres. Est-ce que j'attends toujours de recevoir quelque chose? Pour quelles raisons je donne? Comment ça s'apprend de donner? Est-ce qu'on a envie de donner? Parfois, on n'a pas envie de donner. Parfois, ça fait du bien de donner.
Si on donne, mais est-ce qu'après, on va reprendre la chose ou on va la donner pour toujours?
Là, ce que tu vas amener ici, j'aimerais bien que vous donniez pour toujours. Ce que vous amenez, c'est dans l'idée, je donne quelque chose que je ne vais pas récupérer.
Donner, c'est donner. Un documentaire de Delphine Salquin.
Oui, c'est Jessica de la coordination de transplantation. C'était juste pour vous dire que donc, le foie devrait être chez nous pour 15h15.
En 1981, mon père est décédé d'une cardiomyopathie d'origine inconnue. Il attendait un cœur.
1h15, 1h15. Non, moi je vais plutôt dire 13h. Donc là, on prévoit la voiture qui doit aller chercher le foie à l'aéroport.
C'est une chance de pouvoir donner des organes. Si je dois, moi, m'imaginer de mourir, et si je peux, en mourant, sauver quelqu'un, eh bien, je pense que c'est ce que je voudrais.
Oui, bonjour Fabien, c'est Jessica. Je t'appelle concernant donc le foie qui va arriver de Stuttgart en avion. Donc il devrait arriver vers 14h45 plus ou moins.
Le protocole pour pouvoir recevoir un cœur ou être greffé était beaucoup plus complexe en 81 ici en Belgique.
Il décolle de Stuttgart, donc dès qu'on notifie qu'il décolle, je te rappelle. Ça va? Merci, à tout à l'heure, oui.
Tout citoyen belge ou étranger vivant en Belgique depuis de plus que 6 mois étant enregistré à la commune est considéré comme donneur, sauf opposition dûment enregistrée.
Évidemment que j'étais conscient depuis l'âge de mes 6 ans, 7 ans, que mon père était décédé de cette maladie, de cette insuffisance cardiaque.
Ok. Donc maintenant, on attend juste qu'il nous confirme que le foie est arrivé à l'aéroport.
Voilà, il y a à peu près une dizaine d'années. Les médecins ont remarqué que je souffrais de fibrillation auriculaire, qui est une sorte d'arythmie, pour résumer. Et là, j'étais en train de terminer mes études de journalisme, donc c'était en 2009, dans la fleur de l'âge, à 34 ans. Ça m'a vraiment ralenti dans mes premiers objectifs d'être journaliste en mission, de travailler vraiment sur le terrain, de beaucoup voyager. Donc on va dire que ça m'est tombé un peu dessus en 2009. Je suis Gia, j'ai 49 ans. Dans un mois, je fête mes 50 ans.
Je m'appelle Leda Nobilé, j'ai 41 ans. Je suis médecin intensiviste, réanimateur, italienne, implantée en Belgique depuis 10 ans. Depuis 2 ans, j'ai pris par passion et par occasion le rôle de médecin référent des donneurs pour les soins intensifs dans mon hôpital et référent pour les soins intensifs de la transplantation en général.
Aujourd'hui, c'était le premier rendez-vous qui était quand même un peu stressant pour moi, de voir comment le corps avait réagi, on va dire un mois après ma sortie de l'hôpital.
Pour pouvoir donner les organes de quelqu'un chez qui le décès va se produire au moment de l'arrêt de la machine de ventilation, il faut que tout soit organisé à l'avance. Il faut qu'on ait pu bien faire comprendre à la famille que malheureusement, il n'y a plus aucune chance thérapeutique, que donc la seule chose éthiquement défendable pour nous, c'est d'arrêter les supports artificiels et de laisser la personne pouvoir mourir comme il le serait en absence de technologie, et que ces projets d'arrêt des thérapeutiques actives puissent s'inscrire dans un don d'organes. Ben, il faut que la personne soit favorable au don d'organes, que la famille puisse l'entendre et que donc on puisse définir qu'il y a une absence de contre-indication au don d'organes, que ce soit pour une opposition personnelle au don d'organes ou pour des questions médicales, comme s'il y a une pathologie néoplasique, on ne peut malheureusement pas donner les organes.
Une intervention peut durer 4 heures et quand c'est plus difficile, ça va durer 8 heures au maximum. En général, ça c'est des moyennes. En Belgique, 11 millions d'habitants, on a environ 300 transplantations du foie par an.
Comme on a quand même une pénurie d'organes, le temps d'attente sur la liste de transplantation s'allonge.
Il n'y a vraiment pas beaucoup de transplantations pulmonaires.
On peut sauver des vies.
Il n'y a pas beaucoup de donneurs. En Belgique, ça dépend des années, entre 80 et 100 transplantations par an.
Et si on imagine, on n'a pas besoin des organes, comme on dit, au paradis. Donc c'est mieux qu'ils restent ici pour sauver d'autres vies.
Je m'appelle Valerio Lucci, je suis chirurgien hépatobiliaire.
Je m'appelle Isabelle Etienne, je suis pneumologue depuis maintenant 12 ans.
Je pratique la transplantation et la gestion des dons d'organes, spécifiquement pour le foie.
Et je m'occupe de patients transplantés pulmonaires.
Je m'appelle Anna Rousselière, je suis cardiologue qui prend en charge les patients qui ont besoin d'une transplantation cardiaque.
Et c'est un travail d'acceptation. Je n'ai pas trop raté dans ma vie. Donc, je me suis préparée. Mais c'est vrai que la nuit, je me réveillais comme ça, avec des angoisses, en disant, mais je ne comprends pas comment, déjà, on enlève le cœur et on met. Donc, je me suis dit, bon, déjà, il faut travailler sur l'idée de recevoir encore un cœur, encore étranger.
L'implanter chez le receveur implique le fait qu'on doit enlever l'organe. Les vaisseaux, il faut les disséquer justement pour brancher correctement l'organe qu'on reçoit. Donc c'est ça qui est important, c'est ça qui prend du temps. La dissection de tous les vaisseaux et de toutes les structures qui relient le foie à l'organisme. Et après, de rebrancher de la même façon le greffon avec des sutures. Donc on fait de la dentelle en fait. Quand on prélève les organes chez un donneur d'organes, on les refroidit avec un liquide de conservation spécifique, on les met dans une boîte en polystyrène remplie de glace. Donc ils sont en théorie à 4 degrés pendant le temps nécessaire du transport et de l'intervention chez le receveur.
Oui, bonjour, c'est Jessica. C'est juste pour dire que le foie est là, je suis avec devant le quartier. Je le mets dans le frigo ? Ok, super, merci beaucoup.
Je
J'ai ramené des cartes Pokémon. J'ai pris un gros paquet. Parce qu'il y avait des cartes que déjà j'avais en double et que j'aimais pas trop.
C'est un Playmobil. Il fait quoi, et un bracelet.
Il fait quoi le Playmobil?
Mais il bouge la tête. Hein.
J'ai ramené une voiture. Sinon, mon frère, je pense pas qu'il va jouer avec. Et je l'ai pris.
J'ai une boule magique. Non, pardon, pas une boule magique. J'ai une boule de neige.
C'est un canard.
En tout cas, c'était un truc que j'aime bien.
Je sais pas encore avec qui je vais donner. J'hésite. Je sais pas, mais j'hésite.
J'ai pas envie de le donner.
Donner, t'as un truc que tu veux plus,
souvent pour vendre,
et que tu l'échanges contre quelque chose que tu veux.
Bah, par exemple, il y a quelqu'un que tu l'as jamais donné, tu dis, bon, pour une fois, je vais le faire plaisir, tu le donnes.
Par exemple, ça là, je lui donne un truc que je veux plus, et en échange, il me donne des cartes Pokémon que je veux.
Pour essayer d'être encore plus gentil avec elle, comme ça après, on assume sa bêtise.
On peut aussi donner si on a envie d'être copain avec quelqu'un, par exemple. Tu lui donnes comme ça, t'espères que t'es copain avec lui.
Je vais donner du temps à quelqu'un pour jouer au foot, parce que ça fait très très longtemps que j'ai jamais joué avec lui. Et donc je vais lui donner du temps avec lui.
Ici, on a 5 unités pour au maximum 9, 8 et 6 lits de 2 unités, donc 38 lits. Dans les unités, il y a tout type de patients. Chaque unité est organisée à peu près de la même façon, avec un bureau central des infirmiers, avec les monitos qui sont reliés aux monitos intérieurs des chambres pour qu'ils puissent vérifier et rentrer en cas de nécessité. Et les chambres sont organisées tout autour de ce bureau d'infirmiers. Chaque chambre est une chambre seule qui peut se fermer. Et là, on passe dans le couloir propre où tout le monde passe. Et on a accès à gauche aux urgences. Et effectivement, là, il y a mes deux cas de ce matin. On va passer par là. Salut Adrien.
Bonjour, ça va?
Ça va et toi?
Ouais.
Et on a une très grande équipe et ça c'est vraiment ce qui fait un peu la qualité de soins, avoir beaucoup d'intervenants différents et pouvoir avoir toujours des professionnels de qualité au lit du malade. Et voilà, on espère pouvoir rester comme ça parce qu'avec la crise des soins de santé, on va avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir embaucher plein du monde. Et voilà, le chef de service, Fabio.
Bonjour,
Delphine, on
s'était téléphoné.
Bonjour, oui. Voilà. Donc je m'appelle Fabio Taccone et je suis depuis 2 ans le directeur des services des soins intensifs adultes dans l'hôpital universitaire de Bruxelles. Et de mon accent, vous avez compris, je ne suis pas belge, je suis un petit italien et je suis en Belgique depuis 2001. Donc ça fait 23 ans. 22 ans en fait à Erasmus, donc je suis déjà un ancien. Et je travaille en fait depuis presque toujours, avant avec les gardes et puis comme jeune médecin en réanimation. C'est quelque chose d'incroyable parce que c'est très difficile à expliquer aux gens qu'est-ce que sont les soins intensifs. Et en fait, l'explication la plus simple, c'est que vous avez une pathologie qui touche une partie ou plusieurs parties de votre corps, dont la sévérité est tellement importante qu'il met en danger la vie même du patient, s'il ne reçoit pas un traitement immédiat. Alors, l'hôpital qui a été construit, il a mon âge en fait, il a 48 ans, ils ont une bonne idée en fait, ils ont mis sur le même étage les urgences et les soins intensifs séparés par un couloir. Parce que souvent, quand on a une pathologie qui nous mène aux soins intensifs, c'est souvent un phénomène relativement aigu, donc c'est très proche en fait à la médecine d'urgence. On est spécialiste de rien. Donc parfois, on a envie parfois de faire tout le temps compliqué comme ils font certains autres spécialistes, mais on a vraiment la vie des patients dans nos mains et on voit vraiment les améliorations ou parfois la dégradation très rapidement. Et puis, il y a une autre chose que dans les années, j'ai acquis aussi, c'est le fait qu'on se rend compte vraiment qu'on a affaire à des patients très graves et donc on a le côté humain qu'on peut découvrir dans d'autres disciplines aussi, par ailleurs. Mais le côté humain, l'accompagnement des familles, le fait aussi, il faut savoir, hein, on voit dans un service comme le nôtre, plus de 300 décès par an. Donc la mort fait partie aussi de notre quotidien. Voilà, en tant que médecin, le fait aussi de comprendre et de voir la mort permet aussi d'avancer, de comprendre mieux la souffrance des autres, essayer de les accompagner, de les aider le mieux qu'on peut. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de grandir comme personne.
Moi, je m'appelle Barbara, j'ai deux enfants, j'ai malheureusement perdu l'un des deux, Thomas, à l'âge de 19 ans. Il est décédé le 1er novembre 2016, après 3 jours de coma, suite à un accident d'apnée en piscine. Quand le téléphone a sonné le samedi matin, on m'a dit « voilà, bonjour madame, je vous téléphone des urgences de l'hôpital Erasme, votre fils a eu un accident en piscine, il faudrait que vous veniez ». Ma première réaction, je m'en rappelle très bien, j'ai dit oh, « qu'est-ce qu'il a encore fait, cette andouille ?» Et j'ai dit « est-ce qu'il va bien ?» Et puis la dame m'a répondu « écoutez, venez, l'équipe vous expliquera tout ».
Allô ?
Allô ?
Oui, bonjour Patrick.
C'est Jessica de la coordination transplantation. Je me permettais de vous appeler, je vous ai envoyé un petit email dans le cadre de notre symposium de 2024, donc ce sera notre 10e édition. Et c'est vrai qu'on voulait mettre à l'honneur l'euthanasie cette année.
Ok, parce que donc nous en fait ça serait une table ronde où on a en tout cas invité une juriste qui est spécialisée dans le don d'organes, un peu pour lui poser des questions par rapport à l'euthanasie également. Donc il y aurait, si vous êtes donc ok, le suivi d'un patient dans le cas d'une euthanasie du point de vue médecin généraliste, et puis l'euthanasie au don d'organes une fois entré à l'hôpital, plus côté don d'organes, quoi. Ok. C'est super gentil à vous, en tout cas. Oui, merci, au revoir.
Toujours. Et donc, on a eu une offre compétitive, Eliane. Bon. Un poumon, mais AB, très petit pour... Et nous, notre patient est très grand et en Hongrie, c'est un peu, de toute façon...
compliqué.
Ça n'allait pas. Size mismatch.
C'est des choses qui arrivent.
Je suis Eliane Angenon, je suis coordinateur de transplantation à l'hôpital Erasme depuis 1985. Et c'est un métier que j'avais envisagé pour quelques années, puis j'ai vraiment attrapé le virus. Et ben, 38 ans plus tard, je suis toujours à mon poste. Donc notre métier est d'organiser tous du prélèvement jusqu'à la transplantation. Donc nous sommes une espèce d'interface entre les différents services, que ce soit les urgences, les laboratoires, les soins intensifs, les chirurgiens, le quartier opératoire, les receveurs, les infirmières de salle. Vraiment, on est au centre de tout ça. Et c'est en fait, on est la plaque qui distribue l'information à chacun des intervenants au bon moment et pour que chacun soit à son poste au moment dit. Donc, tout commence malheureusement par une triste nouvelle dans une famille, un décès qui est annoncé. Ensuite, le réanimateur a une entrevue avec la famille après consultation du registre national, parce qu'il faut savoir que depuis 1986, nous avons une loi en Belgique concernant le don d'organes. Il y a un registre qui était dans un premier temps un registre de opposition, et puis très rapidement, c'est devenu un registre d'opposition et d'accord express au don d'organes. Et donc, on doit consulter cette base de données, c'est la première chose à faire. Donc, dans la majorité des cas, il n'y a rien d'indiqué. Mais depuis quelques années, on voit vraiment que les accords au prélèvement d'organes sont en nette augmentation. On est à presque 500 000 personnes maintenant inscrites pro-don d'organes. Et on voit que tout doucement, les oppositions, bien sûr, il y a des oppositions et c'est bien leur droit, sont en régression progressive.
Et tu as eu des nouvelles de ce vendredi ?
Maintenant, dans la majorité des donneurs que nous rencontrons, quand on consulte cette base de données, il n'y a rien, ni accord, ni opposition. Et donc à ce moment-là, il faut avoir une entrevue avec la famille pour connaître l'avis du donneur. Pas l'avis de la famille, l'avis du donneur. On a théoriquement l'autorisation de prélever puisqu'il n'y a rien au registre national et que la loi dit qui ne dit mot consent. Mais nous avons pris le parti de toujours informer les familles de manière claire de nos intentions. Et donc on approche les familles en leur expliquant que le patient est dans un état de non-retour, qu'il ne reviendra jamais à la vie, surtout en mort encéphalique. La loi nous autorise à prélever et on regarde un petit peu si la famille émet une opposition de manière spontanée ou pas. Il peut très bien dire « Oh, il a vu une émission à la télévision et vraiment c'est quelque chose qui ne lui convenait pas et vraiment il ne voulait pas ça pour lui ». Ou d'autre part, on va dire, mais oui, il est tellement généreux que c'est vraiment dépasser encore une fois la mort et donner le meilleur de lui-même au-delà de sa mort. Et donc ça, c'est important pour les familles. Et ces familles sont souvent pas rassurées, ni calmées, ni... Ils sont plutôt sereines après. C'est pas évident de se dire, voilà, on perd un être proche. Accepter que derrière, il aille en quartier opératoire pour être opéré, pour prélever les organes. Alors, c'est fait avec beaucoup de respect, beaucoup d'humanité, mais c'est quand même une intervention. Voilà. Alors, on a beau vous dire, le patient est en mort cérébrale, il n'a plus de douleur, il n'a plus de réflexe. Quand vous le voyez aux soins intensifs, vous avez de quoi douter. Il est rose parce qu'il est oxygéné, son cœur bat, sa cage thoracique monte et descend parce qu'il y a le respirateur, il est chaud au toucher. Pourquoi ? Parce que le personnel qui est autour, qu'il soit médical ou paramédical, veille à tout ça. Et donc, il a l'impression qu'il dort. Mais si vous déconnectez le respirateur, il ne va plus respirer tout seul. Hein. Donc, il est vraiment mort. Parce que la mort cérébrale, c'est la mort de l'individu.
J'arrive aux urgences, et là, quand je suis arrivée, voilà, je me suis présentée. J'ai vu les regards qui se sont croisés. On m'a dit, madame, votre fils est en labo de choc, venez. J'ai vraiment perçu que j'étais évidemment attendue. Je me suis dit, ça c'est pas bon signe. Et puis, on nous a amené, ma fille et moi. Je me suis dit, ça, c'est vraiment pas bon signe. Ça, c'est l'endroit où on annonce les mauvaises nouvelles pour que, voilà, si les proches doivent réagir de manière importante, bah, ça ne se passe pas en salle d'attente devant les autres familles. Et puis, le médecin est arrivé, l'intensiviste qui était là ce jour-là, il m'a expliqué la situation, que voilà, on avait amené mon fils de la piscine du Zéria, où il avait fait un arrêt cardiaque en piscine, et on l'a réanimé, mais il me dit... on ne comprend pas pourquoi, on n'arrive pas à réoxygéner son sang. Et puis, comme on n'arrive pas à le réoxygéner, on va devoir installer ce qu'on appelle un système d'ECMO. C'est une membrane extérieure qui oxygène en fait tout le sang. C'est comme un poumon artificiel externe. Et il me dit, mais voilà, la procédure en elle-même est déjà dangereuse. Donc, on n'est pas sûr qu'il va survivre à la procédure. Donc, on me demande mon accord. Donc, je dis oui, bien sûr. Là, on voit passer dans le couloir mon fils qui est emmené, évidemment, intubé. Moi, je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là. Je n'ai pas vu les tuyaux, tout ça. J'ai vu mon fils. Ma fille, c'est quelque chose qui l'a beaucoup impressionné, évidemment. Toutes les électrodes, enfin, voilà, le respirateur externe auquel il était quand même branché. Elle avait 16 ans.
Comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu ?
Ça descend. C'est de moins en moins bien.
Est-ce que vous avez été malade ? Vous avez une bronchite ?
Pour l'instant, j'ai un peu mal à la gorge. Okay. Le pourquoi ? J'en sais rien, parce que j'essaye de faire attention.
Mais pas de fièvre, pas de toux, pas de
clair ? Non.
Est-ce que vous faites encore un peu la kiné?
Deux fois par semaine.
Ok. Et les douleurs au dos ça...
Donc moi, je fais des consultations pré-greffe. Et donc, on reçoit en consultation les patients avec évidemment des dossiers longs et compliqués. On leur fait faire tout un bilan pré-greffe en hospitalisation. Une fois qu'on a fait ce bilan, on décide toujours en réunion multidisciplinaire, c'est-à-dire avec les pneumologues, les chirurgiens, etc., les psychologues, les assistantes sociales. Est-ce qu'on décide ou pas de proposer un projet de greffe aux patients?
Comment ça va pour respirer? La dernière fois, vous m'avez dit...
C'est plus dur.
Voilà, quand je marche, je dois vraiment m'arrêter. Si je marche un couloir, je dois m'arrêter avant la fin du couloir.
Des étapes, quoi.
Donc, ainsi que, plus en plus difficile.
Ainsi que, par exemple, pour m'habiller, ben, il me faut 20 minutes rien que pour m'habiller.
Okay.
Alors, quand je dois prendre une douche, là, c'est l'horreur.
Et pour manger, après manger, ça va vous
si je mange, c'est, comment dire, si je mange, je dois enlever l'oxygène. Parce okay. que quand je mange avec l'oxygène, j'ai l'impression d'étouffer.
Et donc voilà, comme on dit, il faut toujours profiter des bons jours pour faire des choses et les mauvais jours, il ne faut pas lutter, il faut juste accepter que malheureusement, quand on est aussi malade, c'est la maladie qui dirige la vie et que toute la vie s'organise en fait autour de la maladie. Hein. Monsieur est malade depuis de très nombreuses années, hein, parce que ça fait même, même un peu plus.
Même plus maintenant, parce qu'en 2010.
Ouais, donc déjà presque 15 ans. Et puis, au fur et à mesure des années, les choses se sont dégradées progressivement. Tout le jeu de la transplantation est de, évidemment, pas transplanter les gens trop tôt, mais pas les transplanter trop tard non plus. Donc, c'est toujours cette évaluation perpétuelle du risque versus les bénéfices. Et donc, maintenant, clairement, depuis là, quelques mois, une petite année, on est clairement passé... dans une maladie qui s'est maintenant très fort aggravée. Et donc, on a effectivement décidé qu'il était temps de faire la greffe. Et donc, maintenant, on attend avec impatience qu'il y ait un donneur pour monsieur et qu'il puisse être greffé. Ouais.
Et donc, maintenant, il y a une question. Est-ce qu'il pourrait recevoir des poumons d'une femme?
Tout à fait. Donc, on ne choisit pas les donneurs en fonction du sexe. On choisit juste les donneurs en fonction de la taille et du groupe sanguin. D'accord. Donc ça se pourrait que monsieur reçoive des poumons d'une femme.
Si tu ne vois faire ça, c'est une femme.
Après, la probabilité, vu que monsieur est très très grand, est quand même faible.
Le temps d'attente est assez long. Un an et demi, deux ans pour avoir un organe. Il y a tout un accompagnement médical, mais aussi quand même un accompagnement psychologique, hein, des gens qui vivent des moments très difficiles pour les patients et pour les familles aussi.
Je te donne de la gentillesse.
Je te donne de la paix.
Je te donne moi.
Je te donne de l'humour.
Je te donne... la connaissance.
Je te donne mon amitié.
Je te donne ma date d'anniversaire.
Je te donne mon aide.
Je te donne un mot gentil.
Je te donne mon courage.
Je te donne...
C'est une sorte d'écosystème qui se met aussi quand on reste deux mois et demi à l'hôpital. Il y a des liens qui se créent. On écoute aussi, on observe, on écoute beaucoup l'équipe soignante, des infirmières, tout le corps médical... Qui fait un travail vraiment énorme.
Donc, on part du statut qu'on a un patient en hyper-urgence. Pour cela, il faut que le patient soit inscrit à Eurotransplant dans un statut de HU, donc c'est High Urgency, donc c'est haute urgence. Donc, Eurotransplant se trouve à Leiden. Il regroupe en fait 8 pays, le Benelux, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie et la Hongrie. Et les organes peuvent venir d'un de ces pays. Quand on met un patient en urgence, en fonction des différents critères demandés, quand il y a un donneur qui se présente et qui est compatible, il est proposé au centre qui a cette urgence en liste. Eurotransplant a un système d'allocation qui est très bien fait avec un algorithme mathématique extrêmement complexe qui prend un tas de paramètres. Mais ça ne reste jamais qu'une estimation sur papier. Et donc, le chirurgien ou le médecin qui reçoit l'offre d'organe a lui de déterminer si l'organe convient à son patient ou pas. Et ça peut arriver que ça ne convient pas. Ce n'est pas très grave. L'offre repart dans Eurotransplant et on attend l'offre suivante. Maintenant, il y a des disparités aussi dans le don d'organes au sein de Eurotransplant. Si vous avez la Belgique qui est pro-don d'organes avec beaucoup de donneurs par million d'habitants et que vous avez une disparité avec l'Allemagne, où ils sont très bas en nombre de donneurs par million d'habitants. Donc Eurotransplant s'occupe des balances. Il faut que la balance soit le plus proche de zéro entre les organes proposés qui sont partis et ce qu'on a reçu.
Un patient qui a subi une atteinte cérébrale aiguë, c'est cette atteinte cérébrale aiguë qui parfois mène à la mort cérébrale. Alors vous avez vu que dans le cas de mort cérébrale, le cœur bat, les poumons fonctionnent, le malade il est là, mais en fait le cerveau n'est plus perfusé. Et pour la loi, ceci correspond au décès du patient. Donc quand on déclare la mort cérébrale, on fait un acte de décès, même si le cœur du patient bat toujours. Qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, comme vous allez en salle d'opération pour prélever les organes d'un patient qui est décédé, hein, parce que le cerveau il ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui fonctionne, n'ayant pas cette phase où le cœur doit s'arrêter à nouveau avant le prélèvement, de façon assez intuitive, on dit s'il n'y a pas de manque d'oxygène dans les organes, ces organes ils sont vraiment de très bonne qualité, parce qu'en fait, on va directement de la salle d'opération au prélèvement. Le problème, c'est que vu que la mort cérébrale, c'est la lésion la plus grave qui puisse arriver à un cerveau, le cerveau est totalement déréglé. Et ce dérèglement, en fait, on l'observe avec le cœur qui il y a une chute de tension artérielle, le cœur commence à battre trop vite, parfois le poumon devient, il y a une perte d'oxygénation, le rein, il ne retient plus les urines, il commence à perdre de l'eau comme ça. Donc tous les organes sont déréglés. Et donc même si la mort cérébrale est techniquement la meilleure façon d'arriver au prélèvement d'organes, elle est très difficile à contrôler. Il faut donner davantage de médicaments pour que le donneur arrive en salle d'opération dans le meilleur état possible. Pour le donneur, en fait, qu'on dit à corps arrêté, c'est souvent différent, parce qu'en fait, vous avez identifié la pathologie, on a accumulé toute une série d'examens, et il faut des jours et des jours, pour montrer qu'en fait, le cerveau est lésé de façon irréversible, et souvent, on a un recul de temps nécessaire pour dire, vous savez, on a fait tous ces tests, et on voit que cliniquement, vraiment aucune évolution. On attend d'avoir un avis extérieur si la famille le souhaite. Donc, la préparation du passage d'un malade qui est en lésion cérébrale irréversible à donneur d'organes, elle prend vraiment beaucoup plus de temps.
À cœur arrêté, ce sont des patients qui présentent des lésions cérébrales irrémédiables. Et donc, la loi belge dit bien qu'on ne peut pas faire d'acharnement thérapeutique. Alors là, on a un entretien avec la famille aussi en expliquant voilà, que les lésions sont telles qu'on ne pourra pas faire marche arrière ni avoir une récupération éventuelle, et que donc, dans ce cadre-là, on peut envisager un prélèvement d'organes après un arrêt thérapeutique. La fin de vie se passe au quartier opératoire de manière très humaine, avec beaucoup de respect à la famille. Si elle le souhaite, ce n'est pas une obligation, peut être près du patient. Quand le patient s'arrête au niveau cardiaque, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une période de no-touch. Ça veut dire que c'est durant cette période on ne peut absolument pas toucher le patient. Et cette période est de 5 minutes actuellement. Et durant ces 5 minutes, c'est la période durant laquelle le cœur peut éventuellement redémarrer, de manière tout à fait spontanée.
Je suis Gia et je suis aujourd'hui pour le premier rendez-vous avec Dr Ousselière en cardiologie pour le suivi post-greffe il y a 6 ans et surtout de l'opération du 23 avril pour la finition de la transplantation cardiaque pour la valve mécanique.
Alors, donc un conseil, donc c'est l'été, pour protéger la cicatrice, donc avec la crème solaire, donc vous passez vraiment beaucoup de crème solaire sur la cicatrice, même si vous êtes habillée. Donc les
même si je suis habillée, ah ouais.
Sauf si vous avez des vêtements anti-UV. Oui. Mais normalement, ça passe par le coton, et comme ça évite de donner une couleur un peu plus foncée à la cicatrice.
Ça va.
Alors, respirez par la bouche.
Non,
Les poumons sont bien clairs. Vous pouvez vous allonger. Alors, je vais commencer par la cicatrice. Je vais appuyer un peu. Vous me dites si ça fait mal. Mais détendez-vous. OK ? Parce que là, vous avez déjà crispé.
Aujourd'hui, c'était le premier rendez-vous qui était quand même un peu stressant pour moi. De voir comment le corps avait réagi, on va dire un mois après ma sortie de l'hôpital.
Vous avez maigri un peu, non ? Vous êtes à combien ?
61,5. Ça fait 4 kilos.
Les couleurs chirurgiques ?
Mais c'est les muscles aussi, peut-être. En fait.
Donc on a la valve maintenant. Vous entendez le bruit de la valve ?
De temps en temps, le matin. Quand...
Et ça vous gêne ?
C'est un peu futuristique. Ça. Mais c'est surtout quand je suis couchée, je me lève. Mais on s'habitue à tout.
Alors, je pense que vous avez habitué.
Ben, on a fait pire.
Alors, j'ai des mains froides. Ça va.
Et donc, apparemment, les résultats sont bons. Mais c'est vrai qu'il y a encore une fatigue qui est installée. Et j'étais quand même... greffée à 44 ans. Donc, il y a eu 10 ans, enfin 9-10 ans, où j'ai fait un parcours d'insuffisance cardiaque chronique, hein, de patients malades du cœur, qui était assez complexe au niveau des anxiétés, mais comment on se situe en tant que femme à 35 ans, avec cette maladie, porteuse de cette maladie, de cette insuffisance chronique, comment est-ce qu'on se positionne, comment on vit, comment on crée, comment est-ce qu'on fait des enfants, est-ce qu'on ne fait pas des enfants. Et en 2018, j'ai attrapé une sorte de rhume qui s'est transformée en pneumonie. J'arrivais même plus à marcher parce que chaque fois qu'on fait une sorte de décompensation cardiaque, on se remplit d'eau et alors on a du mal à respirer, à marcher, on devient gonflé. Donc là, j'étais hospitalisée, on a quand même dû me mettre dans le coma quelques jours pour que la pneumonie soit neutralisée. Ça affaiblit le cœur. Et je pense que les docteurs ont commencé à énoncer le fait qu'il fallait penser à une transplantation. Quand je suis sortie du coma, qui est quand même assez lourd, je sais que j'étais encore au service, aux soins intensifs. Je pense que c'est docteur Rousselière et toute sa délicatesse et l'équipe, voilà, qui est venue m'annoncer. Donc déjà, il faut comprendre. Et enfin, entre l'annonce mi-juin et la greffe le 26 juillet au 27, c'est vrai que comme on ne sait pas ce que c'est, ouvrir le cœur, enfin ouvrir le stérin, on ne sait pas, mais c'est vrai que j'ai dû faire un travail pour éviter les rejets. Donc j'ai dû faire un travail, je dirais, spirituel, dans le sens voilà, si je faisais cauchemar la nuit, et d'accepter. Voilà qu'on change le cœur et donc on attend jusqu'au moment où on remonte en cardiologie, en chirurgie cardiaque ou l'unité coronaire et on attend qu'un donneur ou que l'équipe des médecins vous annonce qu'ils ont trouvé le bon cœur compatible. J'ai commencé le yoga pour pouvoir apaiser par la respiration, d'aller marcher dans la forêt. J'ai dû vraiment ralentir la cadence des festivités. C'est un chemin, on va dire, très intime, très existentiel. J'ai 49 ans.
J'ai 55 ans.
J'ai 64 ans.
J'ai 46 ans.
L'hôpital m'a appris qu'il fallait 2-3 ans avant de trouver un cœur, un donneur compatible. Et on m'a trouvé un cœur et donc...
J'ai été transplanté du foie.
J'ai été greffé.
J'ai attendu 8 mois.
Je suis resté à l'hôpital pendant 11 mois.
Et chaque fois, il y a eu un long processus avec toute une batterie de tests.
Ce qui fait, je suis resté 28 jours en soins intensifs. Mon état s'était aggravé et...
Le cœur fonctionnait pas bien.
Les symptômes, c'est être essoufflé.
Monter l'escalier, ça devenait un enfer.
J'étais en chaise roulante.
Se promener, ça n'était plus possible.
Il y a cet inconfort.
C'est pas facile de passer quand même 80 jours à l'hôpital.
Qui crée vraiment des angoisses existentielles, des angoisses de vie.
Donc j'ai 2 antirrhogènes, le néoral et le celcept.
C'est très difficile, franchement. C'est très, très, très difficile.
Plusieurs fois, mon cœur s'est arrêté et une fois, je me suis senti partir.
Et j'attends la greffe, j'espère bien vite.
Et on attend qu'un donneur ou que l'équipe nous annonce qu'ils ont trouvé le bon cœur compatible.
Et un jour, j'ai dit à ma fille, je crois que je ne vais pas y arriver.
Et c'est un travail d'acceptation. Je sais que c'est un donneur ou une donneuse de 40 ans. Je n'en sais pas plus.
On a le droit d'envoyer un message à la famille du donneur.
Tout le monde aimerait bien savoir qui était la personne.
C'est vrai que je pourrais écrire, mais je préfère le transformer en action, être disponible pour d'autres personnes.
Donc moi j'ai écrit, j'ai remercié. J'ai dit qui j'étais rapidement, mais j'ai fait anonymement, j'ai signé d'une initiale.
Voilà, et donc si on a une mission sur Terre, on reste en vie aussi. Donc je pense que j'ai encore des choses à faire sur cette Terre.
Légalement, nous aurions le droit de prélever les organes de toute personne candidate à un don d'organes. Ce n'est plus une question d'enregistrer son opposition, c'est une question de devenir responsable de son devenir. Et surtout, de décharger notre propre famille, à chacun, d'un poids horrible qui se surajoute en deuil. Vous pouvez aller sur le site mysante.be, il y a 4 choix, donner ses organes, oui, non, les tissus, oui, non, le corps à la science, ou certains tissus pour de la recherche scientifique.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici à la faculté de médecine pour ce sympadote, la 10e édition déjà. Mais ce qu'on voulait dans cet anniversaire, c'est un peu faire un hommage aux pionniers de la transplantation.
Vous m'entendez ? Allez, vers le dernier topo de cette séance dédiée à l'euthanasie, allons voir les aspects légaux qui règlent tout ce cadre. Parfait. Madame Skiplek, je remercie d'avance.
Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à vous rejoindre pour cette session qui s'interroge sur la piste que peut représenter l'euthanasie pour le futur du don d'organes. Il faut savoir que le moment charnière à partir duquel on peut envisager le don d'organes, en principe, c'est le décès. Donc les garanties qui entourent la constatation du décès dans toute législation sur le don d'organes sont tout à fait primordiales, puisqu'évidemment, il faut qu'aucun doute ne puisse planer sur le fait que les organes sont récupérés sur des personnes dont la mort est certaine, et il faut aussi qu'aucun doute ne puisse planer sur le fait que la prise en charge des personnes est différente selon qu'il y ait ou non une perspective de prélèvement. Il n'appartient pas au droit de définir la mort, Il s'est donc contenté d'exiger, dans la loi de 86, qu'elle soit constatée par 3 médecins selon l'état le plus récent de la science. La loi ajoute encore que ces médecins doivent être différents de ceux qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement de la transplantation de l'organe, et rajoute encore des aspects administratifs, puisqu'un procès verbal doit être rédigé pour attester de l'heure du décès et de la méthode de constatation. Alors, en Belgique, est considérée comme donneur d'organes potentiels après le décès toute personne qui est inscrite au registre de la population ou depuis plus de 6 mois au registre des étrangers, à moins qu'elle ne s'y soit opposée de son vivant. La loi précise que l'opposition qui serait éventuellement exprimée au don d'organes peut être exprimée de la façon souhaitée, pour autant qu'elle soit claire, précise et surtout communiquée au médecin. C'est l'aspect évidemment le plus important, aspect qui peut entraîner une certaine insécurité juridique. Et de ce fait-là, un système officiel d'expression de l'opposition a été organisé via une déclaration qu'on peut désormais soit enregistrer à la commune, soit via son médecin généraliste, soit directement en ligne via le portail masanté.be.
Il y a 3 mois, Emmeline, 16 ans, est décédée des suites d'une tumeur cérébrale. Quelques jours avant sa mort, elle avait annoncé à ses parents vouloir donner ses organes, ce qui a été fait et ce qui a permis de sauver plusieurs vies.
Ben voilà, je suis déjà fier d'être ici, d'être invité pour représenter les dons d'organes. Et bizarrement, c'est souvent les gens qui reçoivent qui débattent ça, mais ici c'est l'inverse. C'est ma fille, à l'âge de 16 ans, elle a décidé de se faire euthanasier pour donner ses organes, donc pour sauver des personnes. Et petite anecdote aussi, elle a donné aussi son cervelet, comme elle était atteinte d'un cancer agressif, une tumeur cancéreuse au cerveau, et elle a décidé de donner son cervelet pour essayer de faire avancer la recherche. Voilà, donc je suis là pour la présenter. C'est vraiment elle qui a décidé. Donc sans elle, on ne l'aurait peut-être pas fait. Parce que quand vous êtes dans la tristesse, dans la douleur, vous ne pensez pas à ce genre de démarche. Et c'est vraiment elle qui nous a aidés et qui, pour moi, j'espère, va faire changer les choses et va faire avancer la générosité des gens. Parce que le donneur peut être receveur. Et ça, personne ne le sait. Assez à mon goût. Donc voilà.
La personne qui l'avait sorti de l'eau à la piscine de Feria et qui a commencé la réanimation, c'était un étudiant en fait en médecine. Et lui, il m'a expliqué qu'en fait, il l'avait vu qu'il faisait de l'apnée au fond de la piscine. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, non, t'inquiète, je fais de l'apnée. Et donc, l'étudiant a dit, voilà, il a suffi de 2 longueurs pour qu'il se rende compte que mon fils flottait au milieu de l'eau. Donc, il l'a sorti, mais donc, ils l'ont réanimé. Ils ont récupéré, donc son cœur est reparti. Mais bon, voilà, le fait qu'il était 3 mètres de profondeur... Ce qu'on a apprécié d'ailleurs, c'est qu'on a eu toujours le même intensiviste en fait, qui a pris le relais, en tout cas pour communiquer avec nous. Ça nous a paru normal, c'est quelques mois après que j'ai réalisé que c'était impossible qu'il soit de garde 3 jours d'affilée. Et que donc, si c'est avec lui qu'on a discuté à chaque fois, c'est parce qu'en tout cas, entre eux, ils avaient décidé qu'on n'aurait qu'un seul interlocuteur. Et c'était vraiment une bonne chose, je pense. En plus, c'est vraiment quelqu'un... il a été extraordinaire. Avec nous, avec ma fille. Et donc, il dit voilà, il ne réagit à aucun stimulus, à la douleur. Tous les signes sont péjoratifs, y compris les signes à la prise de sang, qui s'empirent. Il y a toute une série comme ça de marqueurs pronostiques qui permettent de définir la probabilité de sortir un jour du coma. Donc là, on était le dimanche soir, il nous dit voilà, là, ce soir, on n'est déjà plus qu'à 0,03% de risque, si je me rappelle bien, qu'il se réveille un jour. Mais il dit, voilà, ça ne suffit pas pour prendre des décisions. Et donc il nous dit, demain matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit faire encore des examens, des potentiels évoqués. Et puis, appelez-moi demain vers 10h30 du matin. J'avais vu en sortant des soins intensifs, il y avait une affiche sur le don d'organes. J'avais dit à mon mari et à ma fille, il va falloir qu'on anticipe cette question. Je crains que demain, cette question va venir sur le tapis. Et mon mari m'a dit, non, je ne veux pas en parler. J'ai dit, mais si, il va falloir. Et donc là, on rentre dans la chambre de Thomas. Et là, je vois, il n'a plus d'électrodes, ils ont recoiffé ses cheveux. Donc, je me dis, bon, ben, ok, voilà. La décision, elle est prise. Et je vois déjà, il a, entre la veille et ce jour-là, il avait son teint jaune cireux, comme ça. Il y avait toujours cette forte odeur de chlore. Toutes ces petites contractions musculaires involontaires, c'était encore plus important que la veille. Donc, c'était vraiment très compliqué. Et donc là, le médecin nous explique effectivement, voilà, les derniers examens qu'on attendait, tous les résultats, tout va dans le même sens. Et qu'en tout cas, à ce jour, il n'y a jamais aucun cas de patient qui s'est réveillé avec tous ces facteurs-là, pronostiques à ce point mauvais. Et donc je vois qu'il fait une petite pause, je sais ce qu'il va nous demander. Je crois, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est moi qui ai tout de suite entamé la question du don d'organes. Ou en tout cas, il y a des phrases qui sont terribles, et heureusement, il ne les a pas prononcées, ce médecin, de dire, voilà, qu'au moins, cette mort ne sert pas à rien. Mais si, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui donne un sens à la mort, mais moi, dans ma tête, je me disais, au moins que d'autres ne vivent pas le même drame que nous. Et puis, voilà, c'est le monde dans lequel je veux vivre. Voilà, moi, mon monde s'écroule aujourd'hui. Tout me paraît noir. Et l'intensiviste a dit une phrase, et je la trouvais tellement belle. Il a dit, dans la tristesse, il n'y a que la solidarité humaine qui compte. Et donc, il a eu la délicatesse de ne pas parler du fait de sauver une vie. On ne sait pas entendre ça à ce moment-là. Mais par contre, ce qu'il m'a parlé, c'est, oui, la solidarité humaine, ce qui nous relie tous entre humains, qui fait que, à ce moment-là, malgré tout mon chagrin, comment dire, mon monde s'écroulait peut-être, mais le monde, il y avait quand même une note d'espoir pour le monde, quoi. Et donc, je me suis dit, ben oui, voilà, si je dois continuer à vivre, c'est dans ce monde-là que je veux vivre encore, et c'est le monde dans lequel mon fils se sentait bien, quoi.
C'est quoi le rapport entre Denis et Denis et la nature ?
La nature nous donne à manger, des bruits d'oiseaux et de la beauté.
En fait, nous, on donne du CO2 à les plantes et les plantes nous redonnent de l'oxygène.
Je reçois de la joie. Je reçois de l'amour.
Je reçois du bonheur.
Je reçois la confiance et le temps.
Je vois des belles fleurs là-bas.
Quand il y a l'hiver, les feuilles tombent parce qu'ils ont froid. Et quand il y a l'été, les feuilles tombent parce qu'ils ont chaud.
J'ai une fleur de compagnie.
Et j'aime bien cette couleur. Je vois tout le monde en groupe. Je vois plein de fleurs et de plantes tout autour de nous. Je vois presque que du vert. Je entends les oiseaux.
Ah,
tant qu'on n'a pas vu quelqu'un dans une réelle souffrance, tant qu'on n'a pas vu quelqu'un étouffé, ne même pas savoir trouver son air au repos, assis ou couché dans un lit, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est la souffrance. Je pense qu'une fois qu'on assiste à une telle souffrance, évidemment qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'aider les gens. Aider les gens à se sentir mieux, à se sentir soulagés. Et que parfois, malheureusement, cette aide, elle passe par accompagner les gens dans une fin de vie, puisqu'il n'y a plus aucune qualité de vie, ni même, en fait, d'espérance de vie. Il y a les cadeaux souvenirs, puisque malheureusement, les parcours de vie s'arrêtent aussi parfois à des moments. Et ça fait aussi partie de notre métier d'être là pour accompagner les gens jusqu'à la fin du parcours. Et tout ça, c'est vraiment des traces pour nous de jamais oublier ces gens. Il y a toute une série de patients qui sont extrêmement reconnaissants. Ils voient qu'ils ont besoin de donner quelque chose parce qu'ils ont reçu et qu'ils ont ce besoin de rendre quelque chose.
Donner ses données est un documentaire réalisé par Delphine Salquin avec la collaboration de Zoé Sulico au montage et aux enregistrements. Prise de son, Zoé Sulico. Prise de son additionnelle, Irvic d'Olivier, Flora Loaiza et Delphine Salquin. Musique, Pascal Salquin. Mixage, Mathieu Charret. Avec les interventions des médecins de l'hôpital Erasme à Bruxelles. Les docteurs, Leda Nobile, Fabio Tacone, Isabelle Etienne, Anna Roussoulière, Valerio Lucidi, Thierry Gusteau et les coordinatrices de la transplantation, Eliane Angenon et Jessica Prévost. Anne-Cécile Skifflet, juriste d'entreprise. Et les témoignages de Barbara Dessart, Gia Abrassard, Messieurs Archambault, André Brice, Yacine Maoul, Olivier Blin et Barnabé Wals. Production, Lettres en voix, en collaboration avec l'Atelier de création sonore et radiophonique, ACSR, et Nonumoy. Ce documentaire est soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Merci à Jacques Béret, notre consultant médecin intensiviste. Merci aux coordinateurs de transplantation, Corentin Baclet et Charlotte Van Brandt. Les ateliers scolaires ont été organisés par l'ASBL Pierre Delune et menés à l'école à la Croisée des Chemins à Neder-Overenbeek dans la classe de Cécile de Vogt. Merci aux enfants pour leur participation.